Oui, donc vous écoutez effectivement des oreilles avec des trous dedans.
Tout à fait, c'est vraiment exactement ça, Dédé, vous écoutez des oreilles avec des trous dedans. Et aujourd'hui, notre technicien a besoin d'un tapis de souris de luxe.
Ouais.
Et donc il a pris...
À l'écoute du XXe siècle, la voilà. Modernité en musique.
Voilà, un livre d'un musicologue américain, jeune musicologue américain de 43 ans, c'est ça ?
45. Et oui.
Qui s'appelle Alex Ross. Voilà. Alors, cette émission est consacrée à la musique. D'ailleurs, ouais. Pas que du XXe siècle, loin de là. Du XXIe aussi.
En ce qui me concerne puis... aujourd'hui, oui.
Et toi, c'est XXe siècle ?
Je m'arrête, oui.
D'accord. Ok. Donc, bon, moi, je passerai de la musique du XXIe siècle, je crois. Et puis... aujourd'hui, pas de musique du 16e, ni du 17e, ni 18e,
non.
Ni 19e, non. D'accord.
Non, non. Bon. On reste moderne aujourd'hui.
Ok, donc on verra ça une autre fois. Si vous voulez écouter de la musique du 17e siècle, vous pouvez aller écouter l'émission numéro 232, dans laquelle il y a de la musique...
Du
16e, c'est ça ? Dans
oui,
l'édition.
Oui, oui, dans
si
l'émission
ma mémoire
232,
est bonne.
Oui, c'était... C'était le 17 avril 2011, non ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Donc, de toute façon, il y a un site hein, où vous pouvez vérifier toutes ces informations. Le site, c'est desoreilles.free.fr.
Ouais.
Et là, si ce n'était pas le 17 avril 2011, bah,
vous nous écrivez un mail.
Vous écrivez, oui.
À quoi ? À desoreilles@free.fr ? C'est ça le mail ?
Ouais, c'est tout à fait ça. Et si c'est pas ça, vous manifestez d'une
ouais.
manière ou d'une autre
voilà.
pour protester.
Vous pouvez pour cela, si vous voulez protester par téléphone, c'est au 01 43 71 89 40. Si vous
ouais.
voulez protester
ouais.
À la manière du XXe siècle d'ailleurs,
ouais.
par lettre postale.
Mmh.
C'est au 145 rue Amelot, 75011 Paris, à la librairie Publico.
Voilà.
Nous avons un petit casier qui doit être bien plein. et vous pouvez donc protester par... Et si vous, en plus, dans votre lettre de protestation, vous pouvez joindre un chèque de 20 euros à l'ordre de DMC, comme dans mon cul, et bien ça aidera Radio Libertaire à survivre
voilà,
et ouais. nous à continuer notre, voilà. notre émission.
Donc n'hésite pas, hein, si vous voulez de la musique du XVIe siècle jusque pour toute l'année, pour tout 2014 par exemple, faites le savoir et on verra ce qu'on fait.
Alors aujourd'hui, comme c'est une émission sans mématique...
Et sans André
de la
DDLS.
Ouais, sans André de la Sayette qui n'est pas là. Il n'a pas pu se rendre au studio aujourd'hui et malheureusement, on fait cette émission à deux. Voilà.
Il s'est fait une fracture du genou dans une compétition de skateboard là, ce week-end.
C'est vrai.
Ouais.
Ah, je ne savais pas. Tiens, c'est embêtant ça.
Ouais.
Bah écoute, je lui souhaite un prompt rétablissement. Est-ce que tu veux commencer d'aider ou...
Non, parce que moi j'ai des morceaux, pas beaucoup de morceaux assez longs, donc plutôt à mettre au centre, tu vois.
D'accord.
Pas sur les bords en tout cas.
Ok, alors on va commencer comme moi j'ai une sorte de thématique interne. On va commencer avec ça. Alors, la thématique interne consiste en de la musique pop indépendante. Alors, on dit pop indé dans les milieux consacrés.
Ouais.
Américaine et plus exactement californienne de San Diego.
Ah, bah ça promet.
Ouais. Et un groupe dont j'ai jamais passé la musique, je crois, et que j'aime beaucoup, et que beaucoup d'auditeurs doivent connaître parce qu'ils sont quand même assez connus, qui s'appelle Pinback. Alors, Pinback, c'est un groupe qui a plusieurs particularités, j'en reparlerai un peu après. C'est un groupe, donc il n'y a pas que de la basse, de la guitare et du chant, il y a aussi beaucoup d'arrangements, beaucoup de travail de studio, un batteur, enfin tout un toin, mais sauf qu'ils sont deux têtes de proue. Un gars qui s'appelle Zach Smith, autrement appelé Amistad Burwell Smith IV, je crois que ça c'est son vrai nom, mais c'est un peu compliqué. Et puis Rob Crow, et tous les deux en fait sont vraiment des gens qui, des mecs qui prennent un temps fou à faire des compos, à faire une pop super ciselée, super chiadée, vraiment très 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 bien réalisée. Parfois le son est un peu froid, vous verrez, moi je trouve que c'est un des défauts, un de leurs défauts, mais vraiment des super chansons très très bien arrangées pour se mettre en bouche. On va écouter, et j'en reparlerai après, un extrait de leur premier disque, donc du 20e siècle, 1999, qui s'appelle, un morceau qui s'appelle Hurley, et qui est extrait de This is a Pinback CD, leur premier album. Voilà, donc un extrait du premier disque de Pinback qui date de 1999. Ils ont sorti 5 albums et puis pas mal d'autres EP et sortes de... Qu'est-ce que tu en penses, Dédé ?
Moi, je trouve ça... J'aime beaucoup. Ça manque juste... Enfin, pour moi, juste à cette première impression, je suis curieux d'entendre d'autres trucs. Il me manque juste un tout petit peu de sel, juste un truc un tout petit peu plus surprenant. Mais sinon, sinon c'est pas loin d'être... Enfin, j'aime bien le son.
Ouais.
Ça me fait penser... Enfin, non, c'est très différent, mais comme j'ai pas beaucoup de références en pop... Les mélodies et la façon de chanter et le côté gentillet, ça me fait penser un peu à Sufjan Stevens.
Ah oui, c'est vrai.
Mais bon, évidemment, les arrangements, c'est très différent. Enfin, surtout dans le son, c'est différent. Ouais, parce que sinon, mélodiquement, je trouve que c'est assez proche, finalement. Oui, quand tu disais que c'était très, très, très ciselé et sophistiqué... Non, t'as pas dit sophistiqué.
Ouais, j'ai pas dit sophistiqué.
Ciselé, oui, ça,
très,
on entend bien.
Très produit, très propre. Le son.
Et puis, moi, j'aime bien le son. Je trouve pas ça. Enfin, c'est très léché, mais, mais c'est beau quand même.
Ce qui est très reconnaissable et très signature, c'est vraiment le son du bassiste, quoi, qui a tendance à beaucoup jouer en accord, ou avec, en tout cas avec plusieurs cordes tout le temps. Et qui a vraiment un son. Très très propre, un son de basse que j'ai tendance à pas aimer et que chez lui j'aime bien en fait. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est un groupe qui fait un peu l'unanimité aussi bien chez les gens qui écoutent de la pop, mais en même temps j'ai l'impression que c'est un groupe qui fait presque plus, qui a un public beaucoup plus rock en fait. Le public de rock très lourd, voire le public de métal, en général beaucoup Pinback.
Ah bon ? Ah c'est curieux parce que pour moi il y a vraiment le côté... dans les mélodies, c'est très gentil. Enfin, mais pas dans un sens péjoratif.
Je suis d'accord,
C'est très joli, quoi. C'est très.
Mais bizarrement, ils ont vraiment un public très. Je crois que c'est il y a beaucoup de gens qui écoutent des choses très, très violentes ou très lourdes, en tout cas, et qui aiment Pinback justement. Comme, je sais pas. Ça doit être dû à la promotion, une sorte de. Tu sais, de nébuleuse dans laquelle ils ont évolué, la promotion, les salles dans lesquelles ils jouent.
Ou des groupes avec lesquels ils ont joué par ailleurs.
Ce genre de choses. Peut-être le fait qu'ils soient barbus aussi et qu'ils aient des têtes, des têtes de métalleux alors qu'ils font une pop.
Et donc, ils sont de San Diego.
San Diego, ouais.
Et San Diego, c'est où ? C'est juste par rapport à San Francisco ? C'est tout,
c'est
près,
tout
non
au sud.
C'est au sud.
C'est au sud de Los,
mais pas
Los
loin.
Angeles. Si, c'est loin, je crois.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, d'accord.
San Diego, il me semble que c'est tout au sud de la Californie.
Ouais, tiens, j'aimerais bien aller là-bas.
Vas-y.
Ouais.
Enfin, à San Diego si tu veux, mais tu peux passer. Pas tout de suite en tout cas.
Non, là tout de suite j'ai un truc à faire. Il faut que je vous fasse écouter un morceau de musique du XXe siècle. Ça, c'est très précis. Et c'est un compositeur de musique classique, on va dire. Je crois que je sais pas si j'en ai déjà amené. C'est Franco Donatoni.
Je connais son nom, mais pas bien sa musique.
J'ai peut-être amené une musique de lui, mais en fait, je connaissais pas très bien. Et là, j'en ai écouté récemment. Je dirais pas beaucoup. Beaucoup parce qu'il est très prolifique et donc ce que j'ai écouté ça représente une toute petite partie de son œuvre. Mais par contre j'ai bien écouté plusieurs fois plusieurs de ses œuvres et ça m'a vraiment ça me plaît beaucoup. Donc je voulais te faire écouter ça.
Ouais.
Alors Franco Donatoni, je ne sais pas énormément de choses de lui, mais il est né en 1927, il est mort en 2000.
Il est mort déjà.
Ouais.
Il y a 13 ans déjà.
Et donc j'aimerais bien trouver un peu de littérature ou d'informations en fait sur ce compositeur. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'il a eu plusieurs périodes dans musical. Il a d'abord été l'élève de Petrassi en Italie. Ça, j'ai pas entendu d'œuvres de cette période, de sa première période, qui sont assez moderne, mais pas avant-gardiste, disons. Mm-hmm. Et alors après, il y a un truc qui est marrant quand même. Par exemple, j'ai lu, il y a une biographie sur le site de l'IRCAM, la médiathèque. Comment ça s'appelle ce Il y a une base de données qui s'appelle Brahms. Je crois que c'est hébergé à l'IRCAM.
Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais.
Enfin, sur Internet, il y a une énorme base de données qui s'appelle Brahms.
Ouais.
Ils l'ont appelé comme ça. D'œuvres, de compositeurs, d'œuvres et tout du XXe siècle. Donc là, j'ai trouvé une biographie un peu détaillée. Et donc, il semblerait qu'il ait eu, ça c'est intéressant, j'aimerais bien me renseigner plus, qu'il ait eu une période de désacralisation de l'acte créateur. C'est-à-dire qu'il aurait mis au point des procédures de composition dans lequel la volonté du compositeur intervient plus du tout, tellement les règles de transformation du matériau sonore sont fixées.
Ouais.
Et en fait, apparemment, c'est un compositeur qui a toujours recherché quelque chose d'organique, un peu comme une prolifération de cellules vivantes. Donc de trouver des règles de transformation. Et... Après, il a fait apparemment une énorme dépression. Il s'est arrêté complètement de composer. C'était peut-être à la suite, à force de désacraliser l'acte créateur, ça l'a peut-être déprimé au bout d'un moment.
Ouais.
Et il a commencé à. Il y a une nouvelle période qui a commencé, qui est dénommée invention ludique. Alors, je ne sais pas trop ce que tout ça veut dire, mais c'est des œuvres de cette période-là, de la fin, que je t'ai amené, et qui m'ont beaucoup plu. C'est un peu par là, par cette porte d'entrée, que j'ai été amené à m'intéresser à ce compositeur. Et ouais. L'autre point, c'est que je m'intéresse aussi beaucoup, comme tu le sais, au répertoire du quintet avant,
oui.
Et qui n'est pas toujours formidable, mais je m'y intéresse. Mm-hmm. Et il se trouve que Franco Donatoni a écrit une pièce pour quintet avant que je trouve absolument vraiment géniale. Enfin,
chouette. Que c'est ça que tu nous fais écouter ?
Et c'est ça que je vous fais écouter. Et je trouve que... Voilà, je trouve que c'est une de ses meilleures œuvres, et en plus, c'est pour cette formation de quintette avant qui a si désespérément besoin de nouvelles compositions de ce niveau-là.
Et ça date de quand, cette composition ?
Ça date de 1989.
Ouais.
Donc, c'est une période aussi où il a été influencé pas mal par le jazz, je pense. Il a écrit d'ailleurs une pièce qui s'appelle Hot. Mmh. Concerto pour saxophone et petit ensemble qui est assez...
Que t'as écouté ?
Que j'ai écouté, que j'ai vu en concert aussi, qui est vraiment très très bien. Et donc je vous fais écouter cette œuvre pour quintet avant, Blow. C'est assez long, mais c'est vraiment passionnant. Je trouve ça vraiment génial. The
Thank you.
Voilà, Blow de Franco Donatoni.
Ouais, c'est super.
C'est bien. Hein.
Ouais, c'est vachement bien.
Ah ouais, moi vraiment, j'ai scotché sur cette pièce. Je trouve que il est. Ouais, il y a des combinaisons sonores.
Ouais, c'est super, de timbres.
Très très belles. Ah ouais, il y a des. Et puis c'est toujours captivant, je trouve, comme progression de la musique.
Mm.
avec ses solos qui s'intercalent, les oppositions entre les groupes d'instruments,
ouais.
Et entre un instrument soliste et des instruments fondus, avec des alliages de timbres et tout.
Ouais, c'est vraiment chouette.
Et voilà, donc c'est une œuvre de 1989 de Franco Donatoni. Et
Il est beaucoup joué, Donatoni ou... Enfin, je veux dire, bon, évidemment, ça ne veut rien dire de dire ça, mais disons par exemple en France, dans les...
Bah écoute, je ne peux pas te dire parce que j'arpente pas trop quand même les concerts de musique contemporaine ou de moderne, deuxième moitié du XXe siècle. Mais moi, je me souviens que j'en ai déjà vu en concert plusieurs fois, quoi, en fait.
Ah oui.
J'ai vu cette pièce Hot pour saxophone et petit ensemble. Et je me souviens d'avoir vu une pièce, j'aimerais bien trouver d'ailleurs un enregistrement, je ne sais pas si ça existe, une pièce qui s'appelle Portal, en fait, qu'il a écrite pour Michel Portal.
Ah ouais.
Pour clarinette et orchestre, et qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Mais c'était peut-être à l'époque où j'idolâtrais Michel Portal, c'est pour ça que ça m'avait plu. voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien les instruments avant et qui a écrit beaucoup pour les instruments avant. Et on en réécoutera tout à l'heure.
Eh ben, on switch encore directement vers Pinback. On écoutera un autre groupe d'ailleurs tout à l'heure dans lequel les musiciens de Pinback jouent, enfin en tout cas Zach Smith, le bassiste et chanteur. Pour l'instant, on fait un saut de 99 à 2007. Ils ont fait un disque vraiment très réussi qui s'appelle Autumn of the Seraphs en 2007, donc qui avait bien marché d'ailleurs. Et on écoute je crois que c'est le premier morceau qui s'appelle Nothing to Nowhere, qui est vraiment chouette. Voilà, donc le premier morceau de leur album de 2007, Autumn of the Seraphs. Je te propose qu'on écoute le deuxième qui est un peu différent et qui est chouette. Et puis après, on repasse à Donatoni.
Ouais.
Ouais.
Ah, oui,
super.
Oui.
Alors, ça s'appelle Barnes.
Abrupt comme fin.
Ouais. Voilà, donc Pinback, deux morceaux d'extraits de leur album de 2007. Voilà, je trouve que c'est vraiment. En fait, ça sonne très léché et très produit. Mais je trouve quand même assez épatant le fait ce qu'ils arrivent à faire en trio, quoi. Il y a une espèce de côté vraiment de réponse tout le temps, de jeu
ah
entre
oui, j'ai
la
pas
basse
fait gaffe.
Et la
ils sont
gratte.
Que, ils sont
En
en
fait,
trio là,
ils sont vraiment en trio, quoi.
Oui, ça sonne très très riche. Ouais.
Et c'est très riche alors qu'il y a pas grand-chose, quoi. Mais, mais ils sont jamais la batterie, la basse, la gratte sont toujours en question-réponse. Et c'est c'est jamais en homorythmie, c'est jamais. Je trouve ça vachement bien foutu quand même.
Oui, c'est bien chiadé. Et c'est marrant parce que, par exemple, dans la deuxième chanson, c'est assez complexe ce qu'ils font. Et puis à la fin, ça part sur un truc de pop très, très. De pop de base, quoi. La mélodie.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Et c'est marrant ce contraste.
Je trouve que c'est vraiment un groupe, une musique qui est en même temps. Stimulante et en même temps hyper reposante, quoi.
Oui,
il y a un peu vraiment ce côté-là. Moi, c'est un groupe que j'écoute souvent et ça me fait vraiment cet effet.
Et donc, ça a bien marché cet album.
Ouais, quand même. Et puis, bah, tu vois, quand ils ont joué il n'y a pas longtemps à Paris, au Nouveau Casino, je les ai malheureusement ratés à cause de des oreilles avec des trous, à cause de toi en fait. Et ça fait plusieurs fois que je les rate, mais je crois qu'en concert, c'est très bien. Et s'ils ont un son aussi chaleureux et.
Ouais.
En même temps énergique avec vraiment ce truc du trio qui c'est assez bluffant, quoi.
Bah oui, non,
j'aimerais bien les voir en concert.
Tu dis oui, c'est léché et produit, mais en fait c'est quand même pas la première impression qu'on a à l'écoute. En fait, ce qu'on sent surtout, c'est que ça joue vraiment, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ça joue. Enfin, on imagine bien que ça doit jouer très bien en live.
Ouais.
Alors, je continue. J'hésite un peu parce que j'ai deux trucs de Donatoni dans ma valoche.
Toujours de la même période.
Alors, j'ai une pièce pour 13 instruments qui s'appelle Flag, qui est de 87, donc vraiment la même période que le quintet avant, qui est très 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 bien, qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai une pièce pour flûte piccolo solo. Alors, évidemment, c'est un peu plus raide, mais c'est très très bien aussi. C'est plus raide dans le sens où une flûte piccolo toute seule, c'est forcément ça paraît de prime abord, on se dit que c'est plus limité qu'une formation de 13 instruments, mais c'est intéressant aussi.
Je voudrais pas influencer ton choix, je te laisse vraiment. Vas-y,
ah oui, tu me laisses entièrement libre, c'est ce que je redoutais.
Ouais.
Eh bien, écoute, je vais faire le choix le plus raide, parce que finalement, cette pièce Flag, qu'on ne va pas écouter, donc finalement, pour 13 instruments, je la recommande chaudement, parce que je trouve que c'est vraiment une merveille.
Ah, très bien, je vais le noter alors.
Et cette pièce Needy, qui s'appelle Needy, donc pour flûte piccolo au sol.
Comme quelqu'un qui est demandeur, Needy, N-E-E-D-Y
N-I-D-I, mais.
Ah, ok. D'accord.
Mais j'avoue que je sais pas trop ce que ça veut dire. Je vous propose d'écouter ça parce que c'est très différent de ce qu'on a écouté tout à l'heure. Et voilà, donc c'est une pièce de 1979. Et
c'était parti. Encore dans la période où il.
Non, c'était le début de cette période qui est dénommée l'invention ludique.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si cette appellation nous vient de lui, mais probablement ça doit être quelque chose qu'il a dû dire à propos de cette période-là. Et voilà, donc Needy pour flûte piccolo. Thank you. Voilà, Nidhi de Franco Donatoni pour flûte piccolo. Ouais, 9 minutes de piccolo, de flûte piccolo, ça vrille bien les oreilles.
Ouais, ouais, ouais.
Mais moi, j'adore cette pièce, je trouve que c'est vraiment passionnant et hyper, hyper inventif, justement. Et puis, j'adore le piccolo, mais ça, c'est un peu spécial. Mais
Ah ouais, mais... Ouais, je trouve ça bien aussi. Ouais. C'est aride, quoi. C'est difficile de...
Bah,
c'est difficile de rentrer
oui.
dans une pièce pour soliste. C'est pas facile, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas la séduction des alliages de timbres qu'il y avait dans le quintet avant, et puis qu'il y a dans beaucoup de pièces de Donatini. Là, la matière est vraiment aride, comme tu dis. En même temps, moi, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de cette musique. C'est vrai que les pièces pour instruments seuls, c'est toujours...
Et monophonique.
Oui, c'est ça. C'est toujours moins séduisant. Mais voilà, mais moi j'aime beaucoup cette pièce, et puis voilà. En plus, ça m'amuse beaucoup d'entendre ce piccolo nous griller les oreilles. Je trouve ça très réjouissant, en fait. Mais il a fait pas mal de pièces pour instrument seul. Il y a des pièces pour violon seul. Il y a un très bel enregistrement de Arditi, Irvin Arditi, c'est ça ? Enfin, le fondateur du Quatuor Arditi. Ouais. Non, mais pas confondre avec l'acteur du même nom. Voilà, mais alors c'est marrant parce que je regardais dans ton bouquin là, t'as une magnifique histoire de la musique au XXe siècle. Hein, donc je feuilletais et je regardais, Franco Donatoni n'est même pas cité en fait dans ce livre d'Alex Ross.
Surprenant. Est-ce que c'est mauvais signe? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une musique du
XXe siècle. En tout cas, c'est un compositeur quand même assez important de la deuxième moitié du XXe siècle, mais c'est vrai que vu des États-Unis, puisque Alex Ross est américain, c'est des fois il y a des distorsions. Enfin, c'est toujours intéressant de lire un bouquin sur la musique européenne écrit par un Américain ou japonais. C'est pas sur la musique européenne.
Non, mais il en parle justement. Ça, c'est intéressant justement. Le départ de Malheur à New York, et puis la visite de Strauss et compagnie, c'est ce que je suis en train de dire. Bref, passons là-dessus. On revient à... en revenant à notre ami Zach Smith, bassiste et chanteur
De
Pinback. Il est aussi bassiste et chanteur, mais pas chanteur lead, dans un groupe qui s'appelle Three Mile Pilot, dans lequel il y a un autre mec que j'aime bien, qui s'appelle Pal Jenkins, et qui est le fondateur, le pianiste et le chanteur d'un groupe qui s'appelle The Black Heart Procession, et qui est un groupe alors que j'ai jamais ramené dans les oreilles, pourtant j'écoute de temps en temps. Parce que là, c'est vraiment de la pop, mais vraiment...
bien suave.
C'est pas hyper surprenant, mais c'est chouette quand même. Bon, il y a des moments comme ça où j'aime bien écouter ça. Vous allez l'entendre là, donc avec, en plus, cette particularité de Pinback, son jeu de basse, et donc ils ont ce groupe et ils tournent aussi avec ce groupe. Enfin, c'est très c'est des gens qui font beaucoup de collaborations, qui jouent dans plein de formations, donc c'est pas très surprenant qu'ils jouent ensemble. Mais c'est une formation de deuxième catégorie pour eux deux, puisqu'ils sont tous les deux leaders de Pinback et Black Heart Procession d'à côté. Ils ont sorti un EP qui s'appelle Maps l'année dernière, et on écoute This Escape, extrait de cette EP. Ouais.
Et on se dit au revoir.
Et on se dit au revoir, voilà. À la semaine prochaine pour
avec un invité.
Avec un invité. Surprise.
Ouais.